suite le point météo de Monique.
La France subit de nouveau de multiples perturbations climatiques. Ces dernières semaines ont vu souffler sur tout le pays un vent de contestation entraînant de belles éclaircies. Vent violent, particulièrement sur les côtes de la Manche, notamment à Calais, où nous avons pu voir des bourrasques renverser les barrières surmontées de barbelés installées en novembre dernier autour du port, dans le cadre du dernier accord franco-britannique. Le vent avait une première fois sévi le 27 décembre, puis récidivé le 15 janvier, entraînant la chute d'une partie de ces barrières sur environ 300 mètres de longitude est. Face à ces intempéries, les autorités françaises et britanniques ont décidé de les démonter face à un ciel plutôt engagé. À noter toutefois, pour les prévisions de la journée de demain, de fortes perturbations concentrées sur le centre-ville toulousain, particulièrement sur le square Charles de Gaulle.
Rassemblement contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme. Métro Capitole, 18h30.
Et qui resteront présentes une bonne partie de la soirée, avec des températures au-dessus des normales saisonnières.
Merci Monique. Un flash info sur le dernier rapport publié par l'ONG Human Rights Watch après une mission d'enquête à Calais dénonçant la situation générale des exilés et en particulier les violences policières qu'ils subissent. Le préfet et le ministre de l'Intérieur répondent,
comme ils le font depuis des années,
qu'ils ne sont au courant de rien et que la police fait son travail.
Cela va de soi.
Violence que les collectifs sur place dénoncent déjà depuis longtemps.
Vive le vent, vandalisme. De Calais jusqu'à Toulouse, partout on résiste.
Voilà, voilà. Tout de suite, on va faire un petit retour sur le week-end de la semaine d'il y a deux semaines.
C'était le 17-18.
Oui, le 17-18, le week-end d'information migrants-migrantes à La Chapelle. Eut un grand succès, puisque on a environ 300 personnes qui sont passées sur la journée du samedi à La Chapelle, avec des expos, des films, des discussions, un bon goûter. Une grosse participation du collectif Étrangers Malades qui va nous en parler tout à l'heure, qui avait pour l'occasion conçu des expos, écrit des témoignages, la Canaille du Midi et un théâtre forum animé par l'école citoyenne qui a aussi eu un grand succès. Voilà, cette journée nous a montré que la nécessité de se rassembler et d'échanger sur ces questions-là. Et à renouveler très très vite. Le lendemain, on a fait une manifestation au centre de rétention administrative de Cornebarieux, où on était un peu moins nombreux, mais avec plein d'entrain, on a fait plein de bruit, et voilà, c'était chouette.
Et il faisait beau.
Ouais.
Un peu venteux.
Pour le point météo.
Ah oui, pardon, j'ai pas rebondi.
Voilà, et tout de suite, on va laisser la parole à Faisal qui va présenter le collectif Étrangers Malades. Pardon.
Bonsoir. Pardon. En fait, le collectif Étrangers Malades existe depuis 2011. Il s'appelait le groupe Étrangers Malades. On a changé juste le nom du collectif. En fait, il y a des personnes concernées au sein du collectif, des personnes concernées par le titre de séjour pour soins, soit des personnes concernées directement, c'est-à-dire malades ou accompagnants d'enfants ou de conjoints malades. Ce collectif, depuis quelques années, est en train d'essayer de parler de ces personnes qui sont plus ou moins mises à l'écart et qui sont dans une difficulté assez considérante et qui ne sont pas qui ont des difficultés en ce moment-là surtout. Ils ont des refus de séjour de plus en plus. Il y a des personnes même qui ont été régularisées pendant des années et qui se retrouvent dans des situations catastrophiques. Alors on s'est dit, c'est le moment de réorganiser ce collectif pour essayer de parler de ces personnes-là Et voilà. Et le but de ce collectif, c'est d'essayer de créer un pont entre ces personnes et d'autres associations et d'autres avec d'autres usagers aussi, et essayer de voir et être en solidarité les uns avec les autres et essayer de lutter ensemble. Et voilà, et justement, la soirée, c'était une occasion d'essayer de faire parler du collectif. C'était une soirée d'information. Et on a essayé de montrer tous les outils qu'on a déjà préparés auparavant. Il y avait plein d'idées. Il y avait l'idée déjà du journal. On a commencé à rédiger un journal mensuel, normalement. On a déjà fait une première édition, on attend la deuxième édition du journal. Et ça parle des parcours de ces personnes-là. C'est des personnes qui racontent leur propre parcours ou des parcours de personnes qui ont été en difficulté et qu'on s'est mobilisé ce jour-là. Et d'autres dans plusieurs occasions pour les soutenir, comme c'était le cas d'un monsieur géorgien, pardon, d'un monsieur géorgien qui a été expulsé et ensuite qui est revenu et qui est très malade et qui se retrouve dans une situation catastrophique. Une autre personne aussi qui a reçu une OQTF et qui s'est retrouvée qui a fait un recours au tribunal administratif. Nous sommes mobilisés pour aller le soutenir. En tout cas, il y avait plein de mobilisations de ce genre pour essayer d'aider ou d'être en solidarité avec ces personnes-là.
Le journal dont tu parles, c'est un journal que vous diffusez
Pour l'instant, par manque de moyens, bien sûr, on essaie enfin de distribuer le journal ou le faire vendre, enfin, si, pour avoir un peu, c'est l'impression qui coûte cher aussi. Et on essaie de le distribuer surtout aux personnes concernées, parce que certaines personnes qui sont concernées par le site de Séjour étranger malade ne savent pas, soit comment, ne connaissent pas la procédure. Et on essaie aussi, à travers le journal, de corriger, justement, certaines idées reçues ou certaines procédures qui ne sont pas correctement suivies par des personnes concernées, soit à la préfecture, soit en allant, par exemple, chez un médecin traitant pour demander un rapport médical. Voilà, on corrige certaines... le parcours, on leur montre, on leur corrige comment il faut faire. C'est des personnes concernées qui sont passées par là, qui essayent de faciliter ou de simplifier la procédure qui est très complexe
et très lente. Pour les autres, du coup, qui débarquent. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour comprendre déjà comment ça marche.
Tout à fait.
Et du coup, c'est un peu un échange de savoir.
Exactement. Okay. Et un soutien, c'est un espace aussi de parole. On n'a pas l'occasion de parler de son parcours, mais quand on est en face de personnes qui sont passées par là, on est plus libre, plus on se sent plus en famille, quoi. Et ça facilite le dialogue et la parole est plus ou moins libre. Et on essaie aussi de soutenir comme on peut, c'est-à-dire soit par des mobilisations, des rassemblements ou on a fait aussi une pièce de théâtre. C'était le jour de la manifestation. À travers la pièce de théâtre, on a expliqué la complexité du parcours d'un étranger malade. Et voilà, il y avait une petite touche d'humour, bien que c'est pas du tout drôle. Le parcours, c'est très compliqué, en fait. Et voilà, on a des outils. Il y a aussi, on a fait aussi le roman photo. C'est aussi une bande dessinée qui montre aussi le parcours. On parle toujours du parcours d'un étranger malade, parce que c'est important. La procédure est un peu... La plupart des personnes ne connaissent pas la procédure, comment faire, comment procéder. Et certaines se retrouvent dans des... Ils font des erreurs des fois et ça revient sur leur...
Oui, qui jouent en leur défaveur après.
Voilà, exactement.
Les prises de décision.
Par rapport à la décision de la préfecture, oui, tout à fait. Et voilà. Et voilà, il y avait l'occasion de cet espace à la chapelle, que vous nous avez invité, gentiment invité. On vous remercie d'ailleurs. Et c'était une occasion de parler justement et d'informer les gens, les personnes qui étaient présentes, de qui est le collectif Étrangers Malades et qu'est-ce qu'il fait à travers l'exposition photo. C'était des expositions, enfin l'exposition des photos, des mobilisations, des ateliers, des réunions depuis 2011, c'est-à-dire 4 ans de... C'était 4 années de... Une histoire, toute une histoire. Et voilà, on essaye de voir comment essayer de faire parler de ça et essayer de trouver aussi les personnes concernées pour leur informer qu'il y a un collectif étranger qui existe et qui est là pour les écouter, pour voilà, créer un pan de solidarité, de soutien avec ces personnes-là.
Alors vous faites vos réunions à la case de santé Arnaud-Bernard ?
Voilà, c'est la case de santé qui nous ouvre son espace pour les réunions qui sont hebdomadaires. C'est tous les vendredis à 16h. Et voilà, c'est selon... c'est souvent des mobilisations parce qu'en ce moment-là, il y a de plus en plus de refus, il y a de plus en plus d'obligations de quitter le territoire français. Et c'est des personnes qui se retrouvent en difficulté, qui se retrouvent en situation catastrophique, quoi. Il y a des personnes qui étaient même régularisées pendant des années, dernièrement, une personne qui était régularisée pendant 5 ans, qui avait un travail, une situation très stable, et se retrouve sans travail, sans logement, sans ressources, sans rien du tout. Et en plus, cette personne est malade, c'est-à-dire... Vraiment, il s'est retrouvé presque dans la dépression. Et voilà, on a ouvert cet espace pour ces personnes, pour qu'ils puissent venir voilà, parler de leurs souffrances, de leur désarroi, de leur... voilà.
Oui, tu nous expliquais tout à l'heure hors antenne qu'il y avait de moins en moins de titres qui étaient acceptés par rapport aux années précédentes. Sur cette thématique-là d'étrangers malades.
Oui, tout à fait. On remarque depuis janvier 2015, depuis 2014, déjà, il y a eu... déjà, la case de santé a fait une statistique. Ils ont constaté qu'il y avait 70% de refus par rapport à 7% de refus l'année d'avant. C'est-à-dire, c'est énorme, c'est... On ne sait pas pourquoi, justement, on se demande pourquoi. On a essayé de voir avec la préfecture, on a essayé de contacter, enfin d'envoyer des courriers pour voir les associations, même le CTDSE, dont on fait partie, le collectif toulousain pour le droit à la santé des étrangers, a envoyé même un courrier pour voilà, poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi ce changement-là d'un seul coup, comme ça ? Est-ce qu'il y a un problème par rapport à la loi ? Parce que voilà, la loi est, voilà, elle est respectée soigneusement et normalement, il n'y a pas de problème par rapport aux demandes et même au renouvellement de demandes. Parce qu'il y a aussi des refus par rapport au renouvellement. C'est-à-dire, l'année dernière, on dit que le traitement n'est pas disponible complètement et... Quelques mois après, on découvre que par magie, le traitement est disponible et que les pays sont modernes et je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a un sérieux problème et on ne sait pas si c'est le médecin inspecteur qui a changé d'avis ou de politique, ou c'est la préfecture qui donne des avis en ignorant l'avis du MARS, du médecin inspecteur de santé publique. Et voilà, c'est pour ça qu'on est en train de voir comment faire, comment agir pour essayer d'avoir des réponses à ces questions-là. Parce que c'est de plus en plus fréquent en ce moment-là.
Peut-être on peut écouter le témoignage d'une personne de collectif lors de la soirée de la chapelle samedi 17.
C'est parti. Ça part.
Depuis plus de 4 ans, j'accompagne mon mari qui est malade. Tout a commencé lorsqu'on s'est enfui de l'hôpital de notre pays d'origine, l'Algérie, vers Toulouse, afin de trouver une prise en charge médicale digne d'un être humain en ce 21e siècle. On a tout laissé derrière nous, même nos propres enfants, faute de moyens et de visa. Dans l'urgence et la panique, on ne se rendait même pas compte des difficultés qui nous attendaient. On ne voyait que le bon côté des choses, en voyant la qualité du service médical, car là-bas, dans notre pays, c'est l'anarchie totale, dans les hôpitaux, alors sauf qui peut. Après être rassurée que mon mari recevait les meilleurs soins, entouré de bons médecins et de soignants compétents, je me rends compte enfin que les problèmes commencent, la galère avec tous ses synonymes. Plus une facture de plus de 80 000 euros à rembourser à l'hôpital. Quand tu es déni de tout droit et tu es abandonné à ton propre sort, aussi bien par ton pays d'origine que par le pays où tu te retrouves. Tu mènes deux combats à la fois, administratif d'un côté pour justifier de ton séjour et médical d'un autre côté, car tu es dans la lutte contre ta maladie. Dans ce combat, tu dois t'armer de courage, de patience et d'endurance pour supporter et résister tout au long de ton parcours. Ajoutez à cela le problème de l'hébergement et de la survie quotidienne. C'est plus qu'un parcours, c'est un combat continuel. Le malade oublie même qu'il est malade face aux divers problèmes rencontrés. Pire que ça, il est même amené parfois à prouver qu'il est bien malade et qu'il ne pourrait pas se soigner dans son pays d'origine. Quelle logique ! Qui peut penser que quelqu'un, Saint-Esprit, pourrait tout laisser ? Son pays, sa famille, ses enfants, ses amis, en gros une partie de sa vie. Tout ça pour se mettre dans la galère et les problèmes. Pourquoi s'aventurer et venir ici s'il était bien là-bas ? Quand on était de l'autre côté de la Méditerranée, on était très séduit par l'image qui nous a été donnée de la France, ses valeurs, la France qui lutte pour le respect des droits de l'homme, etc. Mais une fois arrivé ici, on se rend compte que tout est qu'illusion. Tu es exclu de la société avant même de l'intégrer. Tu es traité de différentes appellations. Profiteur du système généreux français, SDF, sans papier, comme si être sans papier était un délit. Mais heureusement que dans tout ce dilemme, on rencontre des personnes exceptionnelles. On apprend avec eux ce qu'est la vraie solidarité. On s'échange nos histoires, nos expériences, nos parcours et on se bat ensemble pour la même cause qui est le droit à la santé pour tous et toutes, car c'est un droit élémentaire pour tout être humain. Merci.
C'est bien en quarantaine, le monde t'a l'air pété. Pour toi chaque femme qui porte un voile, c'est pire qu'une bombe avec tes pieds. Un bâton de dynamite qui marche, donc dès que t'en croises, ta corse s'assèche. Et pour leur mal, c'est un peu pareil, sauf c'est leur barbe qui forme la mèche. Cousin, je me refuse d'être l'esclave de leur frustration. À chacune de mes craintes, ils me feront boire de leur chute de poisson. Je n'accepte pas, c'est les prises d'otages. Ils quittent nos bases et qui veulent qu'on vive dans une psychose la plus totale, cousin.
C'est bon? Tout de suite, nous retrouvons notre intendant spécial qui va nous parler du visa Balladur.
D'accord. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, la semaine dernière, on fêtait les 20 ans, c'est pas une fête, mais bon, du Visa Balladur. Donc en 95, en 95, le Visa Balladur est mis en place et qui oblige les personnes des Comores, des îles des Comores, à obtenir un visa pour pouvoir aller sur Mayotte. Alors, petit cours de géographie, les Comores, c'est un archipel de 4 îles, dont Mayotte, qui a eu son indépendance dans les années 60, et en 75, il y a eu un référendum qui n'est pas reconnu par l'ONU, pas reconnu par l'Union africaine, ni par l'Union des Comores, qui a fait que Mayotte reste dans le giron français, donc reste français, et tandis que les trois autres îles obtiennent leur indépendance. Et donc toutes ces îles-là fonctionnent ensemble, les gens vont régulièrement d'une île à l'autre, jusqu'à ce qu'en 95, Balladur oblige à obtenir un visa payant évidemment, et contre des garanties de ressources, des garanties de résidence, etc., etc., tout ce qu'on connaît sur la difficulté d'obtenir des visas, et qui fait que les personnes des autres îles, donc il y a trois autres îles, Anjouan, Grand Comore et Maëli, ne peuvent plus accéder à Mayotte. Évidemment, ils ne vont pas arrêter d'essayer de venir sur Mayotte, et simplement ça va compliquer les traversées, ça va faire des traversées de nuit, et ça va faire surtout plus de 12 000 morts selon les autorités comoriennes depuis ces 20 dernières années, par le fait qu'ils se noient régulièrement, un peu de la même façon que les personnes qui traversent la Méditerranée pour l'Espagne ou pour l'Italie plus près de chez nous. Donc voilà, c'est ça les 20 ans du Visa Balladur, c'est une occasion pour des inter-associations, genre Migre Europe ou d'autres associations qui se réunissent pour faire un communiqué de presse pour dénoncer ces 20 ans de Visa Balladur en disant que le Visa Balladur tue. C'est aussi l'occasion de mettre la focale sur Mayotte et sur le fait que dans cette île-là, qui est donc une île française, selon la France, les droits des étrangers sont encore plus trahis, bafoués, qu'en France métropolitaine. C'est-à-dire que, pour exemple, il y a environ 15 à 20 000 éloignements forcés à Mayotte par an ces 5 dernières années, c'est-à-dire le même chiffre que dans la métropole, qu'en métropole. Il y avait 16 000 éloignements forcés en Mayotte en 2013 contre 21 000 en métropole, donc très proche, des chiffres très proches, pour une population de 200 000 personnes. Il y a plus de 3 000 enfants mineurs isolés à Mayotte, de la même façon, qui les parents vont les envoyer à Mayotte pour qu'ils obtiennent une meilleure vie, enfin en tout cas plus d'opportunités, et ils vont se retrouver à Mayotte avec très peu de droits. Là encore, il y a beaucoup d'enfants qui se font enfermer dans le centre de rétention, alors même qu'il n'y a pas d'endroit réservé dans le centre de rétention de Mayotte pour les enfants, qui vont se faire reconduire même s'ils ne sont pas accompagnés, enfermer et reconduire avec des adultes qu'ils ne connaissent pas. Voilà, enfin, grossièrement, c'est encore plus de dénégation de droits pour les étrangers à Mayotte, dans une archipel qui, encore une fois, pour eux, c'est, enfin en tout cas pour la majorité des personnes vivant en Comores, Mayotte fait partie de leur paysage culturel, de leur vie, et cette imposition du Visa Balladur, non seulement ça tue, mais en plus ça a une dimension post-coloniale ou même colonialiste tout simplement. Voilà, après, au-delà des morts dans la mer, il y a aussi le fait qu'il y a un tiers de la population, enfin il y a 70 000 sans-papiers estimés à Mayotte, donc de la même façon, donc sans-papiers, sans droit ou de moins, très peu de droits, donc ils vont être précarisés, qui vont être esclavagisés, etc., etc. Et ce qu'il faut juste bien se retenir, c'est que c'est pas le fait qu'ils prennent les bateaux, c'est pas leur traversée qui fait qu'ils meurent, parce que les traversées entre îles, ça se passait auparavant, c'est bien la militarisation des côtes de Mayotte du fait du durcissement des droits et des règlements sur les étrangers, qui fait qu'ils sont obligés de prendre des routes plus longues, de traverser la nuit, de traverser très nombreux par des passeurs qui en profitent pour arrondir leur fin de mois, qui fait que les morts sont encore une fois de 12 000 ces 20 dernières années. Donc voilà pour les 20 ans, un anniversaire qui n'est pas forcément très joyeux à fêter, mais qui est important à se souvenir. Et juste un truc, les progrès mis en place par Valls, on est passé de 140 à 100 personnes dans le centre de rétention de Mayotte. Donc c'est-à-dire que maintenant, les personnes qui sont enfermées dans le centre de rétention de Mayotte peuvent obtenir 1,37 m² par personne dans le centre de rétention. Voilà.
Ça, c'est une amélioration qu'il fallait...
Évident, merci, je pense.
Merci, merci. Bah voilà, tout ça est bien réjouissant. On peut constater que les collectifs de lutte pour la liberté de circulation ont encore de beaux jours devant eux. Du coup, si vous voulez rejoindre la CLIM, par exemple, ou le collectif Étrangers Malades, si vous êtes concerné, vous pouvez nous envoyer déjà, nous contacter sur l'adresse mail à clim@riseup.net, ou bien nous retrouver lors des réunions qui se tiennent à peu près les 8 et 25 du mois. Donc ce mois-ci, ce sera le mardi 10 février, et le mercredi 25 février, à 19h à la pizzeria Belfort. Et pour l'émission, vous pouvez réécouter les podcasts et tout apprendre sur le visa baladur, bien révisé, en podcast sur le site internet de Canal Sud, qui est aussi, l'émission est aussi rediffusée demain à 14h.
À 17h.
17h. Voilà. D'autres choses à ajouter ?
Ouais, peut-être un rappel sur le rassemblement de demain à 18h30. Au Square Charles de Gaulle, rassemblement contre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Donc rendez-vous à 18h30 demain au Square Charles de Gaulle, Capitole.
Très bien. Alors tout de suite, c'est Bruit de tôle après un petit son.
Salut.
Salut, salut.
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 Thank you.